Et nous voici dans le cinquième épisode de la transmission de la médiation et conflictualité. Donc là, ça va être dans les grandes lignes, un peu les processus d'amélioration des relations de travail et la méthode de médiation. Donc déjà, de façon générale, les principes généraux pour réguler les relations de travail au quotidien, ça va être de mettre en place des pratiques de bilan, d'évaluation, de feedback. Donc, c'est des choses que nous, on fait pas mal déjà dans nos équipes et tout ça, mais voilà, qui sont vraiment instaurées comme une hygiène de relations. D'ailleurs, il parle de la méthode d'analyse Cora sur laquelle nous, on voudrait travailler dans les mois à venir avec les avant-courrières sur les retours. Voilà. Donc, il y a des. Bah, en général, vous en connaissez déjà pas mal, mais il y a du coup dans les outils du bilan, il y a ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré, ce qui serait judicieux de ne pas refaire et ce qui était franchement génial. Dans les outils, plus pour la projection, il y a le stop, start and go. Donc, il y a ce que nous souhaitons poursuivre comme aujourd'hui, ce que nous souhaiterions affirmer encore plus, faire encore plus, ce que nous souhaiterions stopper et ce que nous souhaiterions innover, c'est-à-dire commencer. Voilà. Et puis, pour régir tout ça, il y a idéalement la mise en place de protocoles. D'accueil, de gestion des tensions et des conflits par des notes écrites, par des personnes référentes internes ou externes. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire à l'avant-courrier en rédigeant un protocole en cas de conflit. Voilà, qui puisse servir de base à l'avenir, soit sur de la prévention de conflits, soit sur un conflit qui serait déjà en cours. Voilà, puis après, dans les choses à avoir en tête, c'est que le traitement d'un conflit, ça prend du temps, qu'on ne peut pas du tout maîtriser son évolution temporelle et que chaque partie a sa propre temporalité pour les étapes. Donc les parties à l'intérieur de ce conflit ne vont pas avancer à la même vitesse sur ce qu'elles sont prêtes ou non justement à passer comme étape. Voilà, et puis de façon générale dans nos équipes, ça va être de mettre en place des temps de sensibilisation et de formation sur ces sujets, ou sur des sujets, enfin sur les sujets de la médiation, de ce qu'on parle là, mais aussi sur des sujets qu'on sait épineux. Voilà, et puis sur la médiation de projet pour se mettre tous autour de la table et être sûr qu'on part avec des valeurs et des objectifs communs. Voilà. Il y a un petit rappel sur quels sont les processus et méthodes de la négociation raisonnée. Donc là, c'est sans la participation d'un tiers médiatrice. Donc, la négociation raisonnée, elle s'oppose à la négociation conflictuelle, où il va y avoir un gagnant et un perdant. La négociation coopérative, c'est donc que ce soit satisfaisant, satisfaisant. Donc, dans la négociation raisonnée, ce qui va être intéressant, ça va être donc de rétablir la relation. Par l'expression de la situation par les parties, la perception, leur perception des enjeux, leurs attentes et leurs besoins. Définir l'objectif à résoudre en commun et la recherche des intérêts. Comprendre les intérêts et les objectifs de chacune des parties. Donc ça va être la partie analyse. Après, il va y avoir la partie mise en place d'un plan. Donc on va inventer des options, on va imaginer, anticiper. Et puis, on va mesurer ses limites. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est l'outil de la mésorée et de la pisorée. Donc la mésorée, c'est la meilleure solution de repli ou de rechange avant d'entrer en négociation. Et la pire solution de repli ou de rechange. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, on sait dans quel cadre on peut naviguer sans aller au-delà de nos limites, en tendant vers sa mésorée, la meilleure solution. Et puis là, on va évaluer les options, les hypothèses, et on va se mettre d'accord et agir. Et toujours, toujours, on fait des bilans. C'est-à-dire qu'on cale, on évalue quelques temps plus tard, en fonction de la situation, soit très rapidement, soit plusieurs mois plus tard, un temps pour voir les progrès, réajuster, évaluer ce qui a été mis en place. Voilà. Et donc sur les processus et méthodes vraiment pour le coup de la médiation en tant que telle. En gros, les phases de la médiation, elles peuvent être vues sous plusieurs angles, mais on va imaginer qu'il y a une des façons de voir les choses, c'est qu'il va y avoir toute une phase de désaccord sur le désaccord. C'est-à-dire qu'on est en désaccord et en plus, on est en désaccord sur ce pourquoi on est en désaccord. Donc la deuxième phase, ça va être se mettre d'accord sur le désaccord, qui est consensus sur le dissensus. La phase suivante, ça va être qu'il y ait une phase de désaccord, mais sur l'accord. Et puis l'idée, c'est qu'évidemment, ça termine par une phase d'accord sur l'accord. Donc là, ça demande d'avoir confiance dans les personnes pour qu'elles construisent leur propre accord et qu'on est bien d'accord que ce soit les personnes les mieux placées pour élaborer leurs conditions. Donc ça, c'est une façon de voir les phases d'une médiation. Après, dans la mise en place, il va y avoir cinq étapes. Ça, c'est théorisé par la roue de Futak. Donc, on va dire que jusqu'à la phase de déblocage, on va plutôt traiter le passé. Et puis, de l'autre côté de la phase de déblocage, on va plutôt s'attarder sur le futur. Sachant que la phase qui a trait au passé est vraiment beaucoup plus longue. Elle prend quasiment les deux tiers d'une médiation. Donc les phases, la première phase, ça va être que s'est-il passé, ça va être le quoi, ça va être les faits, ça va être dérouler toute la situation. Ensuite, la phase suivante, ça va être le pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour chacun de vous? Quels sont les enjeux derrière tout ça? Quels sont les objectifs? Quels sont les choses qui peuvent être perdues, où a été la situation a été blessante, etc. Donc là, on va vraiment chercher tout le pourquoi. Et une fois qu'on a déroulé tout ça, on va arriver à la phase de déblocage où il s'agit de mettre en lumière quelles sont les attentes et les besoins de chacune des parties vis-à-vis de la situation. En fait, quand on arrive là, on a déjà fait les deux tiers de la médiation. Et puis là, on passe dans la phase future, donc la phase du et si. Donc ça va être quelle piste acceptable. Et donc là, c'est vraiment la période de créativité. Il va falloir être le plus créatif possible. Il va falloir, en aidant les parties autour de la table à imaginer, à dépasser les imaginaires. Donc, c'est à cet endroit-là, notamment, que la personne en médiation peut. Enfin, ça dépend des personnes autour de la table, mais peut vraiment avoir un rôle contributif, quoi. Parce que sinon, c'est plus permettre de dérouler la parole. Mais à cet endroit-là, on peut imaginer qu'elle apporte des solutions qui n'avaient pas été imaginées par les parties. Et à la fin, on finit par le comment. Donc, quelle solution choisissez-vous ensemble? Voilà, donc ça, c'est les différentes phases que va mettre en place la personne la médiatrice. La médiation, pour les conditions de faisabilité pour un bon déroulement, ça va être la rédaction d'une convention qui va comporter le périmètre de la médiation, donc qui ça concerne, quel est l'objet de la médiation, son origine, et puis rappeler ce qu'est une médiation. Le cadre de fonctionnement, donc ça va être poser le cadre de fonctionnement, donc qu'il soit volontaire. On rappelle, liberté d'entrer et de sortir à tout moment, confidentiel, responsabilité des personnes, pas d'engagement de procédure juridique, en cours et un état d'esprit de respect, de courtoisie dans les échanges. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les conditions favorables à une, enfin, qui sont les principes d'une médiation. On va rappeler aussi les rôles et les responsabilités de la médiatrice, donc d'information, de garantie du processus, de facilitation de l'émergence des points de vue, de la neutralité, de l'impartialité, de l'indépendance vis-à-vis des parties, de la loyauté, de la disponibilité, ni conseil ni arbitre, sans pouvoir de décision sauf celui d'arrêter la médiation, pas d'obligation de résultat et par contre une obligation de compétence. On va rappeler aussi ce qui concerne les parties, donc qui ça concerne, et les entrées et sorties possibles. Et puis on va rappeler les phases. Donc il va y avoir une première phase exploratoire avec du coup la personne nommée pour la médiation pour voir si cette personne se sent la capacité de mener cette médiation. Et si une suite est donnée à cette phase exploratoire, elle sera intégrée au devis, sinon pas de refacturation. Donc c'est une phase de pré-médiation qui a pour but d'échanger avec chaque partie pour explorer leur point de vue, présenter le processus de médiation à tous et toutes, du coup bien s'assurer que les parties sont mûres, enclines. Voilà. Et puis, on part dans la phase de médiation. Donc, sur ce document, on va nommer le type de médiation, est-ce que c'est une aparté, une plénière, une navette, le nombre de rendez-vous, l'articulation entre eux, le déroulement du processus, la projection dans le temps, donc la date des rendez-vous, la durée, leur espacement, les lieux de rendez-vous, la possibilité d'ajustement. On va mettre un cadre le plus clair possible. Et puis dernièrement, on va nommer le coût, donc le montant des honoraires. On va se mettre d'accord sur qui prend en charge combien, les conditions de paiement, les possibilités d'ajustement à la hausse comme à la baisse, en fonction du temps que ça prend. Voilà. Et puis, donc dans les différentes manières de procéder, il va y avoir ce qu'on disait tout de suite, la médiation navette. Donc ça, c'est la médiatrice qui fait des allers-retours, des navettes entre les parties, à la fin de chaque entretien, avant d'aller voir l'autre partie, s'accorder sur quoi déconfidentialiser. Qu'est-ce que vous avez à leur dire tout de suite qui pourrait faire avancer le dialogue? Donc là, on vise, dans ce cas de figure, on ne vise pas à rétablir une relation. On veille aux intérêts des uns et une des autres. Il peut y avoir aussi l'articulation entre des rendez-vous collectifs et individuels. Donc ça, c'est ce qui se fait le plus souvent. Donc en amont et en aval des séances plénières, mise en place de rendez-vous individuels avec chaque partie. Et au sein des séances plénières, pour les parties, possibilité de faire des apartés ou des caucus avec ou sans le médiateur, ainsi que faire des pauses. Et puis des réunions plénières ouvertes. Donc là, c'est d'influence africaine de la palabre, avec la possibilité pour chaque partie d'être accompagnée de leurs conseils, amis, avocats, ou de faire intervenir des experts ou autres tiers pour les séances. Et puis, le plus possible, laisser une vraie tâche de travail à faire aux parties entre les sessions. Voilà. Et puis, pour un bon déroulement du processus, l'idée, ça va faire de faire des rencontres, exploration et proposition du dispositif, de la préparation des entretiens, dont va dépendre en fait la réussite de la médiation. Donc précision des objectifs, des séances, choix du découpage du temps, de l'aménagement des espaces, préparation à la co-médiation, écriture de sa conduite, se préparer à l'imprévu, à la surprise, et puis le déroulé des entretiens. Donc là, il s'agit d'avoir un accueil soigné des parties prenantes, que le cadre soit posé et rappelé dans les phases préparatoires et d'ouverture, respecter les règles posées lors des différentes phases de la médiation, conduire les différentes phases de la médiation en les ajustant selon les besoins. Elles vont pas toujours se dérouler de la même manière. Tous les éléments seront là, mais voilà, il faut savoir réajuster le où, le pourquoi, le si, le comment, la clarification. Les choses ne vont pas forcément arriver comme dans l'ordre. Voilà, veiller à la qualité de la relation, bien choisir ses mots en tenant compte de la culture des personnes, travaux effectués entre les entretiens par les parties, sortie soignée des entretiens, toutes les personnes en même temps pour les plénières. Voilà. Et puis en conclusion, bah, ça va être préciser la synthèse des accords de fin, s'accorder sur l'éventuelle déconfidentialisation des contenus, et puis veiller à la qualité de la clôture de l'action pour favoriser le désengagement de toutes les personnes, y compris celle du médiateur. Et puis ne pas oublier de procéder à une phase d'évaluation plus tard. Voilà, bon, ça fait déjà pas mal d'infos. Donc je vais m'arrêter là, mais ce sera avec plaisir pour en reparler avec vous plus tard. Et puis nous, d'ici là, on va essayer d'avancer sur notre protocole en cas de conflit. On vous tiendra au courant. Des bises!